Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Recomposer, composer avec le vivant, la musique face aux défis écologiques et sociaux, c'est la thématique choisie cette année par Accord Majeur, rencontre nationale qui rassemble artistes, professionnels de la musique, du spectacle vivant et personnalités politiques. Le temps d'une journée, des tables rondes, des débats. Accord Majeur se tiendra à Aix-en-Provence le 7 juillet prochain. Bonjour Philippe Fangès.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue sur France Musique. Vous êtes directeur de l'Association française des orchestres, association qui coordonne l'événement cette année. C'est la 9e édition d'Accord Majeur. Comment les thématiques sont-elles choisies ?
Elles sont choisies collectivement en fonction de l'actualité, en fonction des grands thèmes de société qui dans lesquels nos professions, face auxquelles nos professions, c'est le matin, face auxquelles nos professions sont confrontées et avec lesquelles, sur lesquelles nous souhaitons agir.
C'est l'occasion donc de vous saisir de questions sociétales. Pourquoi justement alors cette thématique écologique et sociale, je précise.
La question est la même que celle qu'on pourrait poser à celui qu'on croise sur le trottoir ou celle qu'on croise sur le trottoir le matin en allant travailler. Et elle est toute simple, c'est quelle est votre réaction face à ce changement radical, inquiétant de société, de paradigme à l'échelle planétaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut agir ? Et alors, concernant l'ensemble des membres d'Accord Majeur, la question, évidemment, se pose à travers sous l'angle professionnel, c'est-à-dire comment est-ce que des orchestres, des opéras, des ensembles de musique baroque, des ensembles de musique contemporaine, des festivals, font-ils face à toute une série de problématiques, comment gèrent-ils ces difficultés-là et comment peuvent-ils, à travers des actions tout à fait concrètes, apporter un peu leur pierre à l'édifice, contribuer à ce que la société dans laquelle on vit puisse avoir un avenir positif.
Cette journée sera donc le reflet de l'engagement de chacun, ce sera un échange de bonnes pratiques aussi. Peut-être précisons, si vous le voulez bien, Philippe Fangès, qui sont, outre les membres de l'Association française des orchestres, quelles seront les fédérations, les comités qui se joindront à l'événement ?
Alors, Accord Majeur est un regroupement informel, amical, de 8 organisations qui sont à la fois des syndicats professionnels ou des fédérations, des réseaux, des associations, et qui couvrent la musique ancienne, la musique baroque, le lyrique, la musique de jazz en grand format, les festivals, je les ai évoqués tout à l'heure, les orchestres, les ensembles. Donc, c'est 8 organisations qui veulent parler d'une voix commune sur une thématique qu'ils choisissent ensemble, parce que l'ensemble de leurs membres y sont confrontés de la même manière.
Y a-t-il parmi justement ces membres, je ne sais pas, ça représente combien de personnes environ ?
Alors, vous me posez une colle, mais la participation aux journées d'Accord Majeur, c'est le rassemblement de ces musiques dites de patrimoine et de création. Ça, c'est pour situer le spectre historique. Et on est en général 350-400 réunis à Aix. Évidemment, c'est beaucoup plus de membres à l'échelle nationale si l'on fédère tous les acteurs des musiques de patrimoine et de création. Ça doit être plusieurs milliers. Et encore une fois, ça va de l'ensemble qui est né l'année dernière à l'institution qui est dans sa ville et dans ses murs de ville, comme un opéra par exemple depuis 150 ans, à un festival comme le festival d'Aix lui-même par exemple.
Et parmi ces milliers de personnes, y a-t-il encore des personnes qui doivent être convaincues de l'importance de cette question aujourd'hui ? Parfois, on l'entend, on en parle chaque samedi ici dans cette émission, parfois certains acteurs culturels n'ont pas conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir ou de la transformation qu'ils peuvent opérer dans la manière dont ils pratiquent leur métier parce qu'ils ne se sentent pas concernés par l'écologie, par ces questions, cet enjeu écologique.
L'une des caractéristiques d'Accord Majeur, c'est évidemment d'être un collectif. Et l'une des caractéristiques propres à l'Association française des orchestres, mais partagée avec le REMA ou France Festival, par exemple, c'est aussi d'être un collectif. Donc, comment est-ce que collectivement on intervient ? Et on intervient notamment par des échanges d'idées. et des échanges de bonnes pratiques. Donc ce sera l'un des buts de cette journée d'accord majeur. Le projet étant évidemment de développer une parole collective, de faire de la pédagogie. Et cette pédagogie que des acteurs très impliqués et très militants peuvent faire vis-à-vis des citoyens, nous devons aussi la faire d'une manière consensuelle si on veut faire avancer ce sujet-là auprès de l'ensemble des acteurs des musiques de patrimoine et de création. Donc j'aurais envie de dire la première méthode, c'est mettre en place une pédagogie qui soit suffisamment porteuse, consensuelle et active, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du greenwashing comme on a tous tendance à le faire, mais il s'agit vraiment de trouver des moyens d'action qui soient opérationnels, qui puissent passer à la réalité et qui puissent contribuer à changer notre société. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut apporter une réponse créative au changement de société que l'on vit. Ben, on peut le faire en discutant ensemble et en portant des projets collectifs.
De la répétition à la venue du public, en passant par les décors, la billetterie, les déplacements, les repas, les partitions, c'est une opportunité effectivement en quelque sorte inédite de redéfinir collectivement votre manière de faire votre métier, une journée un peu pour prendre de la hauteur. Et j'aime beaucoup cette phrase que vous avez choisie pour illustrer, présenter le programme de cette journée. Elle revient évidemment à Aurélien Barreau. Je le cite, « Il faut être poète pour penser hors de l'ordre et déceler l'arbitraire de ce qu'une tradition pluriséculaire fait nécessairement apparaître comme inéluctable. » C'est vous qui l'avez choisi cette phrase, Philippe Fongès ?
Alors, on l'a choisi de façon collective, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que elle reflète vraiment ce qu'on est ou ce qu'on cherche à être quand on est un artiste individuel ou un artiste collectif. Et la poésie, elle est entre les mains des artistes et ce décalage, cette capacité au décalage, je pense qu'elle est fondamentale dans nos sociétés et qu'elle est attendue par tout le monde. Donc c'est ça qu'on cherche à mettre en œuvre et on peut le faire à travers une multitude de thématiques, dont évidemment celle absolument essentielle de l'écologie ou du développement durable.
Philippe Fanjas, c'est l'Association française des orchestres dont vous êtes directeur qui coordonne cette journée de débat, de table ronde. Et cette thématique, évidemment, qui nous intéresse dans cette émission, recomposer avec le vivant la musique face aux défis écologiques et sociaux. Alors, juste avant qu'on évoque vos liens avec le festival d'Aix-en-Provence, puisque cette rencontre, ces rencontres se font en marge du festival, peut-être quelles sont les initiatives dont vous avez connaissance, initiatives déjà menées par les membres de l'Association française des orchestres. Les siècles en font partie, notamment.
Alors, ce qui est intéressant avec un sujet comme ça, c'est que les initiatives peuvent correspondre à une multitude d'entrées. On peut aborder la question sur le plan technique. Donc, c'est le cas du Festival d'Aix, qui, avec d'autres maisons d'opéra en Europe, travaille sur l'éco-construction des décors, ce qui est une question absolument essentielle. On peut évidemment prendre l'entrée de la programmation, c'est-à-dire comment le choix des œuvres, le choix des artistes eux-mêmes, le discours qu'on tient autour du programme, peuvent-ils faire œuvre de sensibilisation, justement, d'éducation, de pédagogie, comme on l'évoquait. On peut s'intéresser aussi, une partie beaucoup plus technique, mais absolument essentielle, à collecter des ressources et les mettre à disposition des acteurs. C'est-à-dire comment accompagner des acteurs culturels qui voudraient agir dans ce domaine-là en mettant à leur disposition le plus de ressources possibles et en la triant, en éditorialisant ces ressources pour qu'elles soient immédiatement utiles. On peut s'intéresser bien évidemment aux problématiques de démocratisation culturelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers le public en déplaçant X artistes, ou est-ce qu'on préfère que le public vienne dans la salle ? Le coût écologique n'est pas tout à fait le même, mais le coût en termes de démocratisation, le rapport, enfin l'intérêt, la qualité en termes de démocratisation culturelle n'est pas la même non plus. Et si je peux, Saskia, faire une toute petite digression.
Je vous en prie.
Cette question, elle est absolument passionnante parce que on peut avoir deux injonctions contradictoires. On va avoir l'injonction qui va pousser évidemment à réduire le plus possible le taux d'émission et donc à avoir un coût carbone qui soit le plus faible possible. Ça veut dire le moins de déplacements possible. Mais il y a une autre injonction qui justifie d'ailleurs la subvention publique, qu'elle vienne du ministère de la Culture ou qu'elle vienne des collectivités territoriales. Cette autre injonction, c'est évidemment mettre la musique à disposition du plus grand nombre, au plus près de son domicile. Et comment est-ce qu'on gère ces deux données-là ? On va devoir donc mettre en place des politiques d'évaluation de nos actions et ensuite faire des choix qui seront les choix les plus écologiquement responsables.
Voilà, comme et quoi défi écologique et social, en quelque sorte, trouver la manière de les faire fonctionner ensemble.
Absolument, absolument. Et c'est évidemment très difficile. Et c'est difficile parce que les habitudes professionnelles vont devoir évoluer et ça va prendre du temps. Ça ne va pas pouvoir se produire du jour au lendemain, malgré l'urgence de la situation.
Et pour cela, vous avez besoin d'être évidemment accompagné aussi, vous évoquiez les subventions publiques, mais par les personnalités politiques. Je pense à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui sera présente pour ouvrir ces rencontres. C'est un message fort envoyé de sa part, de la part du ministère de la Culture, sur cette question-là ?
Je pense que la parole du politique en général, de la ministre de la Culture en particulier, mais la parole du politique en général, elle est absolument essentielle et elle est d'autant plus importante, d'autant mieux entendue, d'autant plus efficace qu'elle se produit en dialogue avec celle des professionnels. Et l'un des objets d'accord majeur, c'est précisément de mettre en dialogue la parole des politiques, la parole des élus et la parole des professionnels. Donc la ministre de la Culture s'adressera effectivement au public en ouverture de ces rencontres. Et l'une des tables rondes en fin d'après-midi sera consacrée à un dialogue justement entre des élus et des opérateurs, à la fois au niveau local, au niveau national et au niveau européen.
Et Olivier Lerude, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture, sera également présent. On l'avait reçu il y a quelques mois dans cette émission. Ce sera donc au menu de cette grande journée qui se tiendra le 7 juillet prochain à Aix-en-Provence. Eh bien, accord majeur, c'était donc la thématique de cette rencontre avec vous aujourd'hui. Philippe Fanjas, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette initiative. On se tiendra bien évidemment informé des débats qui seront donnés dans le cadre de cette journée-là. Merci beaucoup Philippe Fanjas et puis à très bientôt.
Merci à vous et à très vite. On fait un petit point en septembre, si vous voulez.
Mais avec grand plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.